Chapitre 20e. Nous avons laissé Grindsell quittant le capitaine Charles Aubin pour rejoindre les compagnons du comte Mahardy au trou du renard. La consternation des quatre Vendéens fut au comble. Mais Grindsell leur dit « Le capitaine m'a dit que M. le marquis était parti pour Paris avec son neveu et qu'il allait demander la grâce de M. Hector. C'est possible, mais je crois moins que M. le marquis a son idée. » Grindsell passa la nuit dans le trou du renard. Puis, vers 5 heures du matin, avant que le jour parût, il se mit en route pour Belle-Ombre. « Sachons donc un peu ce qu'il y a de nouveau, » pensa-t-il. Le gars arriva vers 7 heures à la lisière du bois, à cet endroit même où l'avant-veille le perfide Ambroise avait fait tomber Hector dans le piège à loup. Mais il fut fort étonné de voir sur la table le sillon des roues d'une voiture. Grindsell eut un battement de cœur. À en juger par l'empreinte du pied des chevaux, la voiture n'était point venue du château, mais de l'intérieur de la forêt. « C'est la chaise de poste de monsieur le marquis, » pensa Grindsell. Il se prit à suivre les traces au rebours et arriva ainsi jusqu'à un chemin de traverse qui venait du village de Bellefontaine. Ce chemin, Grindsell l'avait suivi bien des fois. « Bon, » se dit le gars, « je devine. Monsieur le marquis a eu l'air de partir pour Paris. Puis il est venu ici, et qui sait ?» Grindsell pensa qu'il n'y avait après tout rien d'impossible à ce que le marquis eût délivré Hector. Il revint sur ses pas, suivit la trace de nouveau, retourna jusqu'à la lisière du bois, et put se convaincre alors que la chaise de poste avait stationné quelque temps au même endroit. Grindsell remarqua ensuite les empreintes de pas d'homme. Ces empreintes partaient de l'endroit où la chaise de poste avait stationné et se dirigeaient vers la maison du garde-chasse. Le gars, qui avait des yeux de lynx, eut tout de suite constaté que les personnes qui, de la chaise de poste, s'étaient dirigées vers la maison du garde, étaient au nombre de 2. Tout à coup, il tressaillit. D'autres empreintes croisaient les premières. Celles-ci accusaient le passage de 3 hommes. Seulement, comme elles se dirigeaient en sens inverse, Grindsell en conclut qu'ils étaient allés 2 chez le garde et en étaient revenus 3. Le gars alla frapper à la porte de Mathurin. Mathurin dormait ou feignait de dormir. « Ouvre donc !» crie le gars à travers la porte. « C'est moi, Grindsell !» Mathurin se décida enfin à sauter de son lit et à ouvrir. « Que veux-tu » dit-il. « De voir. Pourquoi faire ? Pour te donner une commission. » Et Grindsell se glissa comme une couleuvre entre le garde-chasse et la porte et pénétra à l'intérieur de la maison. La trappe de la cave était soulevée. « Tiens !» dit Grindsell qui joua l'étonnement. Mathurin se troubla sous le clair regard de l'enfant. « Mathurin !» dit le gars. « Tu sais que je suis le frère de lait de Madame Diane. »« Oui, certes, que je me ferai hacher pour elle. Je le sais. » Et que ni le marquis ni elle n'ont de secret pour moi. « Je ne crois pas, » balbutia Mathurin. « Alors, » dit Grindsell, « pourquoi donc en as-tu, toi ? Moi, sans doute. Il s'est passé quelque chose ici cette nuit, c'est vrai. Et ce quelque chose, tu vas me le dire, Mathurin, mon ami, car il y va peut-être de la vie de M. Hector. Il est libre, » dit Mathurin. « Libre ? Et en fuite. Avec qui ? Avec Madame Diane et le général. » « Et, » murmura Grindsell, « ils sont seuls avec lui ? Non. » Il y a encore le neveu du général, lequel ? Le vicomte de la Morlière. Grindsell fronça le sourcil, mais il ne souffla mot. Alors le garde-chasse lui raconta comment s'était opérée l'évasion du comte. Mais au lieu de se réjouir, Grindsell demeurait sombre. « Si le vicomte est de la partie, murmura-t-il, il n'a sauvé M. Hector que pour mieux le trahir plus tard. » Grindsell jugea inutile de faire part de cette réflexion au garde-chasse, mais il lui dit brusquement « Tu vas aller au château. » « Pourquoi faire ? Tu y prendras un cheval et tu le selleras. Et si on me demande pour qui, tu diras que c'est pour toi et que tu vas à Poitiers chercher un chien pour ta lice. Soit, que ferai-je du cheval ? Tu monteras dessus et tu viendras me rejoindre à l'entrée de la forêt. Tu prendras Toby, tu sais ? Oui, le cheval rouan. Justement, c'est le meilleur trotteur des écuries. » Mathurin ne savait trop ce que voulait faire le gars, mais il était habitué à voir tous les serviteurs du château pliés sous sa volonté fantasque et mystérieuse. Mathurin fit comme tout le monde, il obéit à Grindsell et prit le chemin du château. Grindsell, lui, retourna à la lisière du bois, s'arrêtant juste à la même place où la chaise de poste avait stationné. « Pourvu que Mathurin revienne promptement, » pensait-il, « et que j'aie le temps de partir avant que les hussards se soient aperçus de l'évasion de M. Hector. » Mathurin fit ce qu'on nomme les 2 chemins, c'est-à-dire qu'il ne perdit pas de temps, arriva au château par le sentier du parc, gagna les écuries, et moins d'un quart d'heure après, reparut aux yeux du gars, monté sur un cheval noir. « Comment ?» dit Grindsell. « Tu n'as pas pris Toby ?»« Toby n'est pas à l'écurie. Où donc est-il ? » ?»« Jean, le petit palefrenier, m'a dit que monsieur le chevalier l'avait pris hier soir. »« Il n'est pas rentré ce matin ?»« Non. »« se dit Grindsell. « Il y a encore du louche là-dessous. Je crois qu'ils s'entendent tous pour perdre monsieur Hector. Toby est un cheval qui fait 30 lieues en une nuit. » Le gars, de plus en plus soucieux, sauta en selle, retira ses pistolets de sa ceinture et les coula dans les fontes. « Adieu, Mathurin, » dit-il. « Mais où vas-tu ? » ? Je vais tâcher de rejoindre la chaise de poste de monsieur le marquis. Elle a de l'avance. Oui, mais j'ai des éperons, moi. » Et Grindsell partit au galop. La chaise de poste dont Grindsell suivait les traces avait décrit un demi-cercle. Elle était entrée dans le bois par le chemin qui venait de Bellefontaine. Elle en était sortie par un autre sentier couvert de sable, lequel conduisait à la grande route de Poitiers à Rochefort. Une fois sur la route, qui était couverte de gravier de rivière, la voiture n'avait plus laissé de traces. Mais Grindsell s'était dit « Pour sûr, monsieur le marquis aura été tout droit à Rochefort, et je donnerai bien la moitié de mon sang pour que, à cette heure, monsieur Hector fût embarqué. » Soutenu par cette espérance, Grindsell courut toute la journée sur la route de Rochefort et arriva au point d'intersection de cette voie avec celle de Tours. Mais en cet endroit, une circonstance fortuite lui fit brusquement changer le but de son voyage. La route de Poitiers à Rochefort et celle de Rochefort à Tours se croisaient au milieu d'un petit bouquet de sapins. Qui dit sapinière, dit terrain sablonneux, et les traces de la chaise de poste et des fers des chevaux reparurent. Mais, chose bizarre, en cet endroit, Grindsell put constater que la chaise s'était dirigée à la fois sur Tours et sur Rochefort, ce qui était matériellement impossible et ne pouvait s'expliquer que par l'existence de deux voitures au lieu d'une. L'une venant de Rochefort et se dirigeant sur Tours, l'autre allant de Poitiers à Rochefort. Cependant, Grindsell ne songea point un seul instant à cette complication. Après avoir suivi la route de Rochefort jusqu'à l'endroit où la route disparaissait, il se persuada que le général et ses compagnons s'étaient ravisés et qu'ils avaient pris la route de Tours et rebroussé chemin. Grindsell tourna bride. « Après tout, se dit-il, monsieur le marquis est malin. Il aura pensé que le meilleur parti à prendre n'était pas d'aller à Rochefort. » Ou bien certainement tout est sur pied, mais à Tours, où tout est tranquille. On y cachera parfaitement, monsieur Hector. » Et Grindsell prit la route de Tours et galopa jusqu'au soir. De temps en temps, il retrouvait sur la poussière les traces de la chaise de poste. Un paysan lui affirma qu'une voiture attelée de 3 chevaux, roulant bon train, avait passé 3 heures avant lui. Un peu plus tard, il rencontra une vieille femme qui lui confirma le fait. Comme son cheval était épuisé, il descendit à un relais de poste, on lui donna une monture fraîche. Là, il questionna les palefreniers. « La chaise de poste dont vous parlez, lui fut-il répondu, est passée il y a 1 heure. Combien renfermait-elle de personnes ? 3. Comment était-elle ? Il y avait une jeune dame, un monsieur âgé, un homme plus jeune et 2 domestiques. » Le gars galopa jusqu'au coucher du soleil, moment où il atteignit un 3e relais. Cette fois, son cœur se prit à battre avec violence, car en entrant dans la cour de l'auberge, il vit une berline de voyage toute poudreuse et dételée. « À qui cela ? » demanda-t-il en descendant de cheval précipitamment. « À des voyageurs qui dînent là, dans la salle. » Grindsell entra dans la salle et vit en effet un vieillard, une jeune femme et un homme d'environ 30 ans qui dînaient fort paisiblement. Mais ce n'était ni le général, ni Madame Diane, ni Hector. C'était d'honnête Anglais qui s'en allait passer l'hiver à Tours. « C'est à vous, messieurs, qu'appartient cette chaise de poste ?» demanda Grindsell d'une voix étranglée. « Oh yes !» lui fut-il répondu. « Et vous venez de Rochefort ?»« Oh yes !» Le gars lâcha un gros juron, sortit de l'auberge comme un fou, remonta à cheval et revint sur ses pas au galop. Le marquis, il n'en pouvait plus douter, avait pris la route de Rochefort. 1 heure après, le gars rencontrait, sur la pente rapide que nous avons décrite, la chaise de poste de monsieur de Morfontaine et de son neveu, et arrachait le premier à une mort certaine en tuant l'un des chevaux emportés. En se conduisant ainsi, Grindsell n'avait pas soupçonné un instant que le voyageur auquel il sauvait la vie était précisément celui après lequel il courait. Le général avait remis la tête à la portière, Grindsell s'était élancé à terre. «
Grindsell, monsieur le marquis !»
Telles furent les 2 exclamations qui se croisèrent. « Ah ! » dit le général, « tu me sauves la vie, et tu sauves celle de Diane et d'Hector. »
« Madame Diane, monsieur Hector, où sont-ils ? »
demanda Grindsell. « Hector est prisonnier, » dit le général. « Hector est condamné à mort. » Grindsell jeta un cri. « Diane est restée à Rochefort.
Moi, je vais à Paris tâcher d'obtenir sa grâce, seul. Non, avec le vicomte, mon neveu.
Ah, fit Grainzel. Et tandis que le général lui racontait ce qui s'était passé depuis 24 heures, l'enfant, sombre et recueilli, devinait la vérité tout entière.
Les traîtres, pensait-il, se souvenant que le chevalier de Morfontaine avait enfourché Toby l'avant-veille et n'avait point reparu à belle ombre. Un moment, Grainzel fut sur le point de s'écrier que M. de la Morlière et ses cousins avaient trahi le comte. Mais quelle preuve avait-il à l'appui de son accusation? Le général aimait ses neveux, il ne le croirait pas. Comme le gars hésitait, M. de la Morlière et le postillon arrivaient hors d'haleine.
« Malédiction !» murmura Ambroise. « Ce petit grain de sel est toujours là !»«
Ah, mon oncle, mon cher oncle !» exclamait M. de la Morlière, qui, sous les plus chaleureuses démonstrations, dissimulait son désespoir de voir son vieil oncle sain et sauf.
« C'est Grainzel qui m'a sauvé, » dit le général.
« C'est Grainzel qui vous supplie de l'emmener avec vous, monsieur le marquis, » ajouta l'enfant.
Le vicomte tressaillit et leva les yeux sur Grainzel. Le regard du jeune gars et celui de monsieur de la Morlière se croisèrent comme deux lames d'épée. Ce dernier frissonna et se dit « Grainzel m'a deviné ». Le porteur d'Ambroise, le faux postillon, ayant été tué raide par la balle du gars, celui-ci attela le cheval qu'il montait à la berline. Ambroise avait peur d'être reconnu par Grainzel. Il se tenait à l'écart et le faisait faire la besogne. Quand le cheval fut attaché, Grainzel se tourna vers Ambroise.
« Allons, mon bonhomme, lui dit-il. Quand on est aussi mauvais postillon que toi, on se fait réformer. Monte par derrière. »
Et sans attendre de réponse, Grainzel sauta sur le porteur et fit claquer son fouet. Ambroise, enchanté, monta sur le siège et la chaise repartit.
Certes, se disait Grainzel en conduisant la chaise de poste avec une rapidité et une habileté merveilleuses. Certes, Monsieur de la Morlière ne s'attendait pas à ce que je ferais le voyage de Paris avec lui.